le savez, les parents, la meilleure façon de prendre off, c'est d'aller travailler. Eh-oh! Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Demain, 14h.
Salut!
Bye!
Salut!
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
À l'émission ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Drouin, qui est stratège en ressources humaines et médiatrice. Elle a écrit le livre « Apprivoiser les vampires au travail, regard bienveillant sur 15 profils exigeants ». Salut Marie-Ève.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir. Tu es dans les RH depuis combien de temps?
Ça fait un peu plus de 16 ans maintenant que j'évolue dans le monde de la dynamique humaine, des ressources humaines et 10 ans maintenant en entreprise privée, là, donc à mon compte.
Puis qu'est-ce qui t'a amené vers là? T'étais-tu quelqu'un qui était très axé sur le psychologique des gens quand tu étais au secondaire, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça a commencé à t'intéresser?
En fait, j'ai fait une technique en comptabilité à la base.
Oh. Donc,
vraiment un parcours très différent. J'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la business. Donc, je suis allée au départ au niveau des chiffres et j'ai réalisé très vite qu'au-delà des chiffres, il y a des humains qui travaillent en entreprise.
Ouais.
Donc, j'ai fait un parcours par la suite universitaire plus en ressources humaines. L'idée a toujours été d'aller faire de la business, donc d'aider les entreprises à croître. Mais en le faisant, en valorisant, dans le fond, ce qui est le plus important dans leur business, puis c'est les humains qui y travaillent. Donc, okay. C'était vraiment mon objectif d'aller faire des RH leur avantage concurrentiel en faisant un peu les RH de façon autrement. Donc, en revoyant un peu les façons de faire pour que ce soit plus simple, parce qu'à la base, on va tous travailler pour gagner notre vie. Donc, je voulais vraiment aller chercher le maximum chez les humains. Pour faire de la business, finalement.
OK. Et le côté médiatrice, là, ça, c'est, tu l'as atteint comment? C'est quoi une job de médiatrice en ressources humaines?
En fait, en ressources humaines, on apprend très vite qu'on gère beaucoup de conflits, beaucoup de gestion de perception. Donc, les gens, leurs sentiments, comment ils se sont sentis face à une situation, qu'elle soit réelle ou non. Donc, leurs sentiments ne changent pas. Donc, je suis allée me perfectionner en 2020 en médiation pour aller me chercher des outils supplémentaires pour aider les entreprises et surtout les dirigeants d'entreprises parce qu'on serait surpris de voir à quel point il y a des associés qui se chicanent donc en entreprise. Donc, c'était vraiment pour aller me chercher un kit d'outils supplémentaires et pour vrai, la médiation, pour moi, a révolutionné un peu ma façon de voir les choses en ressources humaines parce que ça vient chercher le besoin primaire. Puis à la base, on agit tous pour répondre à nos propres besoins. On est tous un peu égoïstes, un peu à l'image des enfants, hein, où on doit leur apprendre à partager.
Ouais.
Dans les faits, à la base, la majorité des gens sont bons. Donc, ils veulent bien faire, ils veulent juste répondre à leurs propres besoins. La médiation vient chercher comment on peut résoudre des conflits, comment on peut rapprocher les parties, mais que tout le monde se sente bien puis que tout le monde ait leurs besoins de répondre.
Ça ne doit pas toujours être évident. J'ai fait mille et un métiers dans ma vie. J'ai été travailleur autonome. Je suis toujours travailleur autonome. J'ai une petite entreprise aussi. Je suis employé. J'ai été gestionnaire pendant quelques années. Et c'est là où j'ai découvert le merveilleux monde des ressources humaines, à quel point les gens ont leur propre perception. Puis ce que je trouvais particulier, Marie-Ève Drouin, c'est de voir que dans une situation de conflit où c'est toi qui deviens le médiateur, même si tu n'as pas l'expérience pour être médiateur, tu reçois un candidat, il va te raconter l'histoire, sa façon de voir les choses, pourquoi il a réagi de telle façon. La personne va quitter le bureau. Tu reçois l'autre candidat avec qui l'autre est en chicane. Il va te raconter sa perception. Puis après ça, tu vas rencontrer les témoins. Puis tout le monde a leur propre version. Et là, tu te dis, Tabarouette, c'est qui a raison là-dedans, tu sais? Puis comment on fait pour rapprocher ces gens-là qui se sont éloignés en raison du conflit?
Le premier principe qu'ils nous apprennent en médiation, et je pense que c'est le principe le plus utile que je pourrais donner aux gestionnaires, c'est arrêter de chercher la vérité. La vérité n'existe pas. Si moi, j'ai senti que tu m'as manqué de respect parce que tu ne m'as pas regardé dans le corridor quand j'ai passé, bien, ça ne change pas ma perception, même si tu me dis, ben non, mais j'étais préoccupée, puis là, j'étais en retard, fallait que je prépare mon show. Ça ne changera pas comment je me suis sentie. Toi, tu vas avoir une lecture différente de la situation. Et ma réaction, peut-être que c'est ma réaction que tu vas trouver bête. Et si on tente de chercher la vérité, c'est comme une roue sans fin. On ne sera jamais capable de venir au bout. Donc, l'idée, c'est de reconnaître pourquoi tu t'es senti. Pourquoi pour toi, c'est un manque de respect? Fait que souvent, c'est d'aller préciser qu'est-ce que tu veux dire quand il t'a manqué de respect. Il ne m'a pas regardé dans le corridor. Comment tu t'es senti exactement? Tu t'es senti mise de côté? Pourquoi ça t'a affecté à ce point-là? On va aller chercher le besoin derrière. Et nos besoins sont toujours légitimes. Je te donne un plus bel exemple. Si tu es toujours en train de répondre à ma place, ton besoin, c'est peut-être de te sentir utile, de te sentir encore pertinent et d'aider.
Ouais.
C'est un besoin qui est très légitime. Si tu me demandes, Marie-Ève, trouves-tu ça légitime qu'ils veulent aider et qu'ils veulent se sentir encore pertinent? Je connais personne qui va répondre, ben non, c'est pas vraiment un bon besoin. Par contre, la manifestation que tu as pour répondre à ce besoin-là, c'est celle-là qui est inappropriée. Fait qu'on arrête de chercher la vérité, on se concentre sur pourquoi tu agis comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen autre de combler ton besoin? Et c'est là qu'on est capable de rapprocher les parties en respectant tout le monde.
J'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais il y a plusieurs types d'individus. Là. Moi, j'ai rencontré des individus, j'étais incapable de comprendre comment ces gens-là fonctionnaient. Je te dirais, maintenant, je ne peux pas mettre de pourcentage là-dessus, là, ce serait injuste de ma part, mais il y a des gens qui sont autistes, mais la forme Asperger. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement brillants, mais qui sont dans leur monde à eux. Donc, pour eux, te dire « bon matin » ou encore « hey, je quitte, passe une belle fin de journée », c'est pas toujours leur priorité dans la vie. Eux sont fonctionnels, sont très pertinents dans leur truc. Puis dans leur monde à eux, c'est qu'ils arrivent 4 heures, c'est fini la job, merci, bonsoir, on part. Mais pour moi, c'est important de dire bye à tous les employés quand je quitte la station. Fait que je fais le tour de chaque. Hey, salut tout le monde, bye, on se revoit demain. Mais la perception que j'avais de ces gens-là à l'époque, c'est voyons, ils sont donc bien bêtes. Alors qu'ils sont pas bêtes, c'est juste leur façon d'être.
C'est tellement vrai. Puis en fait, le point, c'est qu'on n'a pas à accepter de dire, ah ben, moi je suis comme ça, l'autre est comme ça. À partir du moment où on nomme l'impact que ça a sur nous, c'est là où ça change. Le plus bel exemple, c'est exactement ce que tu viens de décrire, mais avec mes deux plus vieux garçons. Mon plus vieux, lui, c'est un intellectuel. Il passe la journée à l'école. Quand il arrive le soir, il est brûlé d'avoir vu du monde. Ouais. Il veut être juste dans sa chambre en train de lire des livres. Mon deuxième était à l'époque au primaire et lui, c'est un gars social. C'est un gars de foot, c'est un gars de gang. Lui, il est à l'école, il aime ça pour voir des gens. Quand il arrivait, il terminait l'école, il n'y avait plus d'amis. Son plaisir venait d'arrêter. La seule chose qu'il faisait, c'est d'attendre sur le bord de la porte que son grand frère arrive de l'école. Et dès que son grand frère mettait le pied dans la maison, tout de suite, veux-tu qu'on joue ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et là, la chicane pognait inévitablement à chaque soir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revenu encore à la base des besoins. Donc, William a besoin, toi, tu as besoin de socialiser. C'est important pour toi d'avoir du monde autour de toi, puis tu trouves ça difficile quand tu arrives à la maison. Aymeric, est-ce que tu trouves ça raisonnable? Ben oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de tranquillité après avoir passé une journée à l'école, à parler avec tout le monde, puis être obligée de socialiser dans l'école. William, est-ce que tu trouves ça raisonnable? Ben oui, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Donc, les garçons ont convenu, laisse-moi une demi-heure pour me comme décanter. Puis une demi-heure plus tard, je te promets, je vais jouer avec toi. Et là, c'était super cute parce qu'il attendait chrono une demi-heure sur le divan, assis à regarder l'heure pour dire... Ça fait une demi-heure. Est-ce que maintenant on peut jouer ensemble? Il avait trouvé un moyen de s'ajuster. L'important, c'est d'apprendre à nommer. Donc, si ton collègue ne dit pas bonjour, c'est facile de lui dire, écoute, Paul, j'aimerais juste te le dire. Moi, là, je suis très sensible au bonjour et aux bonnes fins de journée. Ça me fait du bien. Puis je sais que c'est peut-être pas important pour toi, mais ça me rendrait vraiment heureux si c'était quelque chose qu'on pouvait travailler ensemble, que tu pouvais faire un effort parce que moi, je suis sensible à ça. Et je suis persuadée que Paul va le faire. Parce qu'à partir du moment où on réalise l'impact, on n'est pas des mauvaises personnes, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas nuire aux gens.
Oui.
Le problème, il est exactement dans ce que tu as dit, c'est que les gens ne le nomment pas. Ils le ressentent, Puis là, ils finissent par dire, ben Paul, on l'aime pas. Ah là, lui, il est bizarre, puis il a beau être performant, on l'aime pas. Et là, ça se parle au lieu d'aller voir Paul pour dire, ça serait important pour moi. Penses-tu que je vais aller te voir le matin? Peut-être que ça sera pas naturel, toi, mais j'aimerais ça qu'on veuille bonjour le matin, ça me ferait du bien. Paul se posera pas à ça. J'en ai pas vu que ce soit imposé à des demandes comme ça.
Marie-Ève Drouin, tu es stratège en ressources humaines et médiatrice. Tu accompagnes les conseils et conseilles les PME dans la gestion concrète de leurs enjeux en milieu de travail. Tu es aussi auteur d'un livre qui semble être très intéressant. J'ai très hâte de le lire. C'est « Apprivoiser les vampires au travail ». On est des vampires au travail!
Exact. En fait, je voulais un terme qui frappe l'imaginaire. Ouais. Parce qu'un vampire a l'apparence humaine. Et c'est que dans tout le folklore québécois, c'est quelqu'un qu'on laisse nous-mêmes rentrer dans notre maison. Donc, c'est nous un peu qui nourrissons le vampire. Et si on se fait mordre par un vampire, mais on devient nous-mêmes un vampire. Donc, j'ai écrit le livre à la base aussi pour les employés parce que trop d'employés que j'ai rencontrés me disent « Marie, je ne me reconnais plus. Je suis rendue bête avec mon collègue. Je ne veux plus y répondre. Je suis plus capable qu'il vienne me déranger aux 5 minutes. Je l'aime. » Mais là, hier, j'ai dit « Hey, là, revire de bord. Je n'ai pas le temps de te voir. » Et là, je ne me reconnais pas. Donc, à l'image des vampires, ils venaient comme de se faire mordre. Ils sont devenus la manifestation de ce qu'ils ne voulaient plus être. Et je vous rassure, là, moi, je suis personnellement, beaucoup de mes itérations de vampires, selon l'âge où j'avais, le stress que j'avais à l'époque. Donc, on est tous un jour ou l'autre le vampire de quelqu'un d'autre. C'est des vampires que j'appelle des gens qu'on apprécie, qu'on aime pour vrai, mais ça ne change pas le fait que des fois, on n'est plus capable puis on est brûlé. Ils viennent vider notre énergie.
Ouais. Tu as 15 profils différents. Parle-moi de quelques-uns de ces profils-là.
Bien, le premier, un que j'aime beaucoup, qui est en entreprise très régulièrement, c'est le saboteur d'agenda. Le saboteur d'agenda, c'est lui qui a toujours une petite question, qui veut toujours aller valider, ouais, qui n'est jamais sûr de rien. Pourtant, ça fait 5-10 ans qu'il travaille à la même place. Il connaît la réponse, mais il a comme toujours un besoin de venir redéranger, revalider sa question. Et il vient prendre toute l'énergie, tout le temps de ses collègues de travail. C'est quelqu'un qui est super sympathique souvent, qui est très, très jovial, mais qui vient toujours nous déranger. Donc, on a de la difficulté, on se sent un peu coupable de lui dire « Écoute, arrête, t'as connu la réponse. C'est pas normal qu'après 5 ans, t'as connaisse pas la réponse. » Donc, c'est le saboteur d'agenda. Ouais. Sinon, j'ai...
Ça me fait penser au Go Gym qui s'entraîne là depuis 20 ans, qui a qui fait pas vraiment d'exercice, qui va là juste pour jaser avec les gens qui s'entraînent. T'es pas capable de faire tes affaires sans que ces gens-là viennent te voir. Des fois, faut que tu leur dises tout simplement que t'as juste pas le temps. Le problème, c'est que c'est des collègues de travail. Ils seraient supposés de travailler, ces gens-là. Là.
Exact. Par contre, c'est des gens qui veulent une reconnaissance ou qui veulent faire partie d'une gang. Ouais. Souvent, c'est justement comme l'exemple de ton gars au gym, ils veulent faire partie d'une gang. C'est important pour eux, ils veulent socialiser. C'est une façon de créer le lien. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas appris à créer les liens dans leur vie adulte. Donc, comment ils font? Ben, ils vont déranger, ils vont poser une petite question. C'est une façon de rentrer en contact avec l'autre personne. C'est une façon maladroite d'entrer en contact avec quelqu'un, mais ça demeure la seule façon qu'ils ont connue d'entrer en contact avec leurs collègues. On en a qui sont le maître des excuses. C'est jamais de leur faute. Il y a toujours quelque chose qui est arrivé. Je suis arrivée en retard. Oui, mais il y avait tellement de trafic. OK, mais est-ce que tu es parti à la dernière minute? Est-ce que tu avais prévu? Le trafic, il ne change pas du jour au lendemain. Est-ce que tu as pris la peine d'appeler s'il y avait un accident? Juste te prévenir, il vient d'avoir un accident devant moi, assurément, je vais être en retard. Ou on le sait une fois que ça fait 5-10 minutes puis qu'on t'appelle pour dire « t'es où? Hey, je suis dans le trafic, je ne pouvais pas y aller. » Donc, comment tu réagis face à la situation? On a toutes sortes de vampires dans les organisations. Certains que j'apprécie plus que d'autres parce que ça crée des dynamiques différentes. Mais derrière, il se cache toujours un besoin qui n'est pas comblé. Donc, c'est des gens qui n'ont pas l'intention de mal faire. Ils cherchent juste à combler soit leur besoin de reconnaissance, leur anxiété de performance, le fait qu'ils n'aient pas appris à réguler leurs émotions. Je pense au roi du drame là, qui n'a pas appris à réguler ses propres émotions, ou le sanguinaire émotif qui va toujours aller avec des phrases assassines comme « Ah, oh, je le sais que je suis un fardeau pour toute l'équipe », pour être sûr d'aller se faire rassurer en disant « Ben non, t'es pas un fardeau, on t'apprécie, ah, t'es important pour nous ». Donc, on en a de tous les sortes. Là.
Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est le roi des mille une raisons. Là. Comment tu l'as appelé, ce vampire?
Le maître des excuses.
Le maître des excuses. C'est-tu un peu ce qu'on appelle le gaslighting? C'est que dans une situation, la personne va tout simplement tenter de te dire que ce que tu perçoit, c'est pas vraiment la réalité, puis elle va te refaire sa réalité parallèle pour être sûr et certain que tu avales la recette qu'elle est en train de te donner?
Ouais, ça, c'est plus un autre titre de vampire. Même les exclus, c'est vraiment quelqu'un qui a la croyance limitante qu'il n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Il croit pour vrai. Il n'a juste pas de contrôle sur sa vie. C'est comme s'il s'en allait voir un film, puis il écoute sa vie passer. Puis pour lui, il n'y a sincèrement aucun moyen de prendre le contrôle. Donc, ce n'est pas une question de tenter de reprendre le dessus sur la conversation. Il croit sincèrement que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'y avait aucun moyen de le changer. Donc, il faut lui réapprendre ou poser des questions pour qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que tu penses que ça peut donner comme impact ou comme perception si tu ne m'as pas appelé pour me prévenir que tu ne serais pas à l'heure pour m'aider? Comment tu penses que je peux me sentir. Et là, c'est là que les gens vont réaliser, ouais, c'est sûr que c'est poche. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Penses-tu que m'appeler, ça aurait pu être quelque chose de faisable? Oui. Et là, la prochaine fois, ils vont le prendre en charge. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui veulent mal faire, c'est des gens qui croient sincèrement, qui sont juste incapables, sont cloués dans leur propre vie, finalement, puis que tout leur arrive, qu'eux, ils ne contrôlent pas cette partie-là.
Ouais. Ça doit être quand même assez particulier là, quand la personne a 40-50 ans de t'asseoir avec ces personnes-là pour tenter de comprendre l'individu puis de lui expliquer que son comportement il pourrait être modifié pour que ça aille mieux en entreprise. Des fois, là, ça prend quelqu'un qui est capable de recevoir les plaintes ou encore les demandes.
C'est tellement gratifiant parce que c'est transformateur. À partir du
Ah ouais.
moment où on va comprendre pourquoi, puis souvent je leur demande, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pensé à appeler? Et là, on va aller poser des questions. Et là, à un moment donné, ils font une révélation et c'est le changement qui apparaît par la suite. Fait que j'ai des clients qui m'appellent, me disent, je suis plus capable, je vais le mettre dehors, aide-moi à le mettre dehors, plus capable de l'endurer. Ça fait 5 ans qu'il est ici, moi, c'est terminé. Puis je fais, bon, ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous me laissez tenter une dernière approche? Puis on passe de l'employé qui voulait mettre dehors à Marie, je ne sais pas ce que tu as fait. Il est motivé, il arrive à l'heure. Il est rendu qu'il prend des initiatives. En 5 ans, il n'en a jamais pris. Puis en fait, on ne fait pas de miracle. On va juste chercher c'est quoi le besoin derrière. L'humain veut plaire. C'est un besoin prioritaire. Donc, à partir du moment où ils comprennent que c'est eux qui vont gagner là-dedans, c'est très rare qu'ils n'embarquent pas. Très rare. Même les gens les plus fermés qui disent, moi, je veux rien savoir. Moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Ces gens-là ont réussi quand même à les faire changer parce qu'au final, tout le monde va être aimé. Tout le monde va être. Personne qui se lève le matin en disant, moi, j'aime ça que personne m'aime. J'aime ça que tout le monde me trouve pas bon puis que personne veut dîner avec moi sur l'heure du midi. Ça n'arrive pas. Ils font semblant parce qu'ils se sont créés une carapace parce qu'ils ont été habitués comme ça
Ouais.
en milieu de
Ou la
travail.
peur de se
À
faire
partir du
rejeter.
moment. La peur de se faire rejeter. À partir du moment où ils voient qu'ils ont le pouvoir de changer quelque chose, qu'on leur donne les outils, c'est incroyable ce que ça fait dans les organisations. Fait que oui, c'est quelque chose de recevoir toutes ces doléances-là. En même temps, c'est tellement incroyable de voir après le changement en entreprise, pas juste sur la personne, sur le gestionnaire qui est à bout, qui est tanné de gérer sa garderie, sur les collègues qui se demandaient, hey, moi, je sac-tu mon camp, plus capable de ce collègue-là, parce que c'est ce qui arrive. Les bons joueurs finissent par partir quand on laisse ces gens-là, ces vampires-là continuer à opérer, même s'ils sont bienveillants, ils viennent brûler quand même les bons collègues de travail autour. Fait que ça fait tellement un bel impact sur toute l'organisation. Que malgré tout, honnêtement, c'est la partie que je préfère dans mon travail.
Okay. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça peut coûter au gestionnaire de constamment mettre à pied des employés qui auraient peut-être eu justement besoin d'une personne comme toi, Marie-Ève, pour tenter de remettre la situation en place, puis que ces employés-là reviennent convenables pour l'employeur? Tu sais, pour un propriétaire d'entreprise, refaire une formation, puis 5 ans ou 10 ans, tu sais, t'as 5 ou 10 ans d'expérience dans l'entreprise, là, tu dois reformer quelqu'un qui va te faire perdre de l'argent au début, qui va faire des erreurs, qui va recommencer. Ça représente des milliers de dollars, là. Est-ce que les employeurs voient ça de cette façon-là, Marie-Ève?
Je pense que les employeurs voient vraiment la valeur, surtout dans leur charge mentale, parce que souvent, ils les apprécient, ces employés-là. Il y a des gens qui sont très compétents aussi dans leur travail, mais que leur attitude, leur émotivité non contrôlée fait en sorte que le gestionnaire passe, le propriétaire passe 2, 3 heures par jour, des fois, pour gérer toutes les perceptions, les chicanes entre employés. Fait que même si ils gardent les employés, ils font comme moi, Marie, juste pour arrêter de gérer 2, 3 heures par jour, cette charge mentale-là pour pouvoir me permettre de focusser sur ma business, ça a une très grande valeur pour eux. Fait que je pense que c'est honnêtement, les entreprises sont très sensibilisées à cette valeur-là parce que c'est l'effet domino aussi. Si on termine quelqu'un, il y a toujours l'humain est empathique, hein? L'humain veut être bon. Fait que même si les collègues autour chialent à tous les jours à leur gestionnaire, je suis plus capable de Carole. Carole est tout le temps en retard, Carole est ici. Ben, la journée où on termine Carole, ah, oh, c'est drôle, Carole, on l'aimait finalement. Carole, ouais, mais t'es drôle. Puis là, qui va arriver? Là, elle sera pas bonne, la nouvelle. On va être obligé de la reformer. Puis là, finalement, on perd d'autres employés, mais eux, on voulait qu'ils restent dans notre business. Fait que là, on se retrouve à avoir toujours le risque que j'appelle l'effet domino. Il y en a-t-il d'autres qui vont partir? Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Évidemment, il y a des vampires dangereux. Il y en a une section dans mon livre sur les vampires dangereux. Il y en a qui sont pas sauvables. Par contre, quand on est dans les vampires bienveillants, il y a une grosse partie qu'on peut faire, qu'on peut changer. On garde l'expertise, on garde notre stabilité au niveau des employés, on diminue notre temps de gestion de chicane, de perception, puis on est capable de se concentrer sur des vraies affaires, sur notre business, sur notre croissance.
Marie-Ève Drouin, moi j'adore les films d'horreur. Tu me parles de vampires dangereux en entreprise. Qui sont ces vampires dangereux-là? Puis est-ce que c'est des gens qui sont, je sais pas moi, type machiavélique, là, qui ont un objectif pur et simple de faire suer l'entièreté de l'entreprise? Y a-t-il de ces gens-là qui existent vraiment?
Malheureusement, oui. Celui même de qui j'ai été victime dans le passé, là, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai appelé le loup caché. Ça, c'est la personne qui rentre en entreprise puis qui se fait aimer tout le monde. Il est donc bien fin, il se rapproche du propriétaire, toujours disponible, il se rapproche de tout le monde. Mais de tout le monde, c'est drôle, il donne pas la même version à un à droite. Pour lui, c'est une façon de prendre le pouvoir. Il dit, hey, fais attention à Yannick, d'après moi, il est sur le bord de partir, puis là, il crée des histoires à gauche, à droite, et soudainement, son attaque sort. Et là, il démissionne. Personne n'a vu venir, mais c'est assuré, honnêtement, de séparer tout le monde. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va séparer pour mieux, c'est diviser pour mieux régner.
Ouais.
Son objectif derrière, c'est de prendre le pouvoir. C'est vraiment de prendre du pouvoir. Puis quand il ne peut pas prendre le pouvoir, bien, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de saboter l'entreprise avant de quitter. Pour qu'on se dise, bien, depuis qu'il est parti, ça ne va pas bien. On aurait dû le garder. Donc, on a malheureusement des gens comme ça dans les organisations. Heureusement, c'est la très faible minorité de la population. Donc, je veux rassurer tous les auditeurs qui écoutent, c'est la très faible minorité. Mais c'est souvent des gens qui vont être motivés par l'ego seulement, le pouvoir. On ne parle plus de besoins fondamentaux comme le besoin de reconnaissance, le besoin de performer, d'être entendu, de s'assurer que tout fonctionne bien, d'aider les gens. On parle vraiment d'un besoin centré sur « je veux du pouvoir, si je ne l'ai pas, je suis prêt à défaire tout le monde autour de moi pour m'assurer de garder ce pouvoir. »
Puis ça, Marie-Ève, sais-tu... Tu m'excuseras, mon cerveau ne l'est pas machiavélique, là, ce qui fait en sorte que je peux me ramasser avec des gens comme ça dans mon entourage sans m'en rendre compte. Mais c'est-tu des gens qui sont préparés, qui sont structurés, ou c'est des gens qui sont instinctifs, ils veulent être le loup dans la bergerie, puis ils veulent semer le chaos. C'est vraiment des gens qui se lèvent le matin avec des objectifs. Ah oui, OK.
Ouais. En fait, le loup caché est même venu me voir là, par la suite pour m'expliquer quel avait été son plan, puis que finalement, ça n'a pas marché, fait qu'il venait d'annoncer sa démission. Puis il m'expliquait ça de façon froide, là, en disant « voici c'était quoi mon plan, t'sais, l'étape 1, j'ai fait ça, tu te rappelles, j'ai fait ça ». Et il y avait un besoin d'aller me le verbaliser. Mais c'est pas grave, j'ai pas dit mon dernier mot. Là, j'ai encouragé deux personnes à quitter. Moi, je vais quitter de mon bord. Je vais annoncer ça tantôt. Et vraiment, là, de manière très froide, très lucide. D'autres sont pas, se rendent pas nécessairement compte ou ont pas de plan structuré. Je donne l'exemple de la gentillesse. La personne qui est trop gentille. La personne qui est trop proche, c'est la personne qui a toujours un beau commentaire. T'es belle comme ça, Marie-Ève, tes cheveux te font bien. Ah, tes culottes te font vraiment bien. On devrait être en couple, nous deux. Je trouve qu'il y a toujours une proximité. Il touche l'épaule. Hey, je vais te faire un massage. Tu as l'air stressé. Sans pas, là, OK, ben, je suis un peu malaisée. Moi, j'aime pas ça qu'on me touche. Ah, non, mais là, tu prends pas les blagues. Je voulais juste te faire du bien. Et là, deviens un peu. C'est pas nécessairement des gens qui ont l'intention derrière en se disant, je vais aller rendre quelqu'un mal à l'aise aujourd'hui. Okay. Ça devient comme une pulsion qui se contrôle plus. Donc, pour eux, tout est justifié par la gentillesse. Je voulais être gentil, je voulais te faire un massage. OK, mais moi, j'aime pas ça. Ben là, tu prends pas les blagues. Je comprends pas. Moi, je veux être ami avec toi. Tu vas être tout seul. Ben, reste tout seul dans ton coin. Donc, on a un peu de tout. Ça fait partie. Et tous mes vampires dangereux ont été chez un de mes clients un jour ou l'autre. Là. Donc, c'est tout basé sur des cas réels. L'idée, c'est qu'il y a des moyens de protection pour l'entreprise à ce niveau-là. Donc, mon guide, au départ, pour les vampires bienveillants, est conçu autant pour les employés qui n'ont pas d'autorité. Donc, c'est mon collègue, je ne sais pas quoi faire. C'est un client, je ne sais pas quoi faire. Comment je peux réagir pour reprendre le contrôle en préservant la relation? Et la section sur les vampires dangereux, bien là, évidemment, ça s'adresse davantage aux entreprises, aux propriétaires, aux gestionnaires sur si tu es face à un vampire dangereux dans ton organisation, bien, qu'est-ce que tu dois faire pour protéger ton organisation? Mais surtout, il y a des pistes sur comment prévenir pour ne pas les faire rentrer dans ton organisation. Parce qu'à la base, c'est toujours mieux de ne pas les faire rentrer chez nous.
OK, mais c'est quoi?
Donc, comment on peut faire pour les détecter?
Il y a des tests qui existent?
En fait, moi, j'aime beaucoup... des fois, c'est des tests auxquels on ne pense pas, mais je vais donner l'exemple.
Avez-vous un chien? Avez-vous un chat? Est-ce que vous êtes capable d'aimer les animaux? Est-ce que vous êtes capable d'aimer les êtres humains?
on n'est pas du tout dans cette équipe-là. Non. Mais si, par exemple, chez nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir des gens qui vont se sentir responsables, ouais, qui vont avoir de l'introspection, qui vont être capables, pour le bien de tout le monde, de revoir leur posture. Moi, une des questions que j'aime beaucoup poser en entrevue, c'est « Parle-moi de la plus grande erreur que tu as faite au cours de ta carrière. » Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'erreur, c'est comment il explique l'erreur. Et si c'est une erreur tellement banale et que ça fait 15 ans qu'il est en milieu de travail, c'est ça sa plus grosse erreur, clairement... J'en connais pas beaucoup des gens qui ont fait des erreurs en entreprise. On en fait tous, on est humain, on est imparfait. Et si surtout le justicier en disant, même si mon collègue qui n'avait pas donné à temps les informations, fait que là, j'ai eu l'heure fou, mais dans le fond, c'est pas tant de ma faute. Bien là, c'est le red flag de dire, là, si c'est pas déjà pas tant de sa faute, clairement, c'est comme ça qu'il va réagir en entreprise. Donc, des fois, c'est aussi d'être cohérent puis d'être conséquent avec ce qu'on dit. J'ai un client pour qui la ponctualité, c'était super important. C'était une forme de respect. Il y a des gens qui respectaient ça. Si tu acceptes que ta personne en entrevue, elle arrive en retard, c'est quoi le message que tu viens d'envoyer? Donc, tu devrais être conséquent et dire malheureusement, on ne tiendra pas l'entrevue parce que l'entrevue est à 11h, tu es arrivé à 11h05. Si la personne dit « Oui, mais j'ai été pris en retard », je comprends, mais est-ce que tu avais un téléphone pour nous écrire, nous appeler, nous aviser de ton retard? Oui. Bien, ça arrive à tout le monde un accident ou le bus qui est en retard, ceci étant de ne pas appeler alors que tu avais un téléphone pour nous rejoindre. Ça, ça t'appartient. Nous, on ne peut pas accepter ce type de comportement-là. Le problème, c'est qu'on n'est pas cohérent dans nos pratiques. Fait que les tests peuvent être aussi très simples dans les questions d'entrevue pour valider est-ce que la personne est cohérente. Si elle dit qu'elle est super bonne pour travail d'équipe, parle-moi d'une fois où... Justement, ça a été quoi son plus beau travail d'équipe? Si la personne se décrit juste qu'elle, elle a fait, mais ne met pas en valeur ses collègues, c'est ça pour elle du travail d'équipe. C'est comment s'élever grâce aux autres et non pas comment réussir à aller plus loin grâce à une équipe. Donc, des fois, c'est juste d'aller chercher un petit peu plus loin.
Je vais te poser la question qui tue, Marie-Ève. Est-ce qu'avec le manque de CV qu'on reçoit dans une entreprise, les employeurs... ont peut-être un peu moins de rigueur dans la sélection des candidats puis dans la sélection des nouveaux employés, alors que tu ne devrais pas lésiner sur la sélection, tu devrais faire un choix judicieux, mais comme il y a juste deux CV qui rentrent puis tu as trois postes disponibles, tu te dis « Ouais, je pourrais peut-être en combler un là puis ça me prend absolument quelqu'un. » Ça se peut. Ben, en fait, ça te donne de la job par la suite, fait que c'est la bonne nouvelle, Marie-Ève, là, mais pour l'employeur, il se tire dans le pied, là.
Et effectivement, puis la pénurie de main-d'œuvre des dernières années n'a pas aidé. Ceci étant, si moi, je suis un bon collègue qui respecte les procédures, qui trouve ça important le travail d'équipe, puis on embauche un nouveau collègue qui est complètement à l'opposé parce qu'on avait besoin de quelqu'un, bien, ça se peut que l'entreprise voisine ait aussi besoin de quelqu'un chez qui, moi, je pourrais aller travailler. Fait qu'on a fait que déplacer le problème souvent. Et il ne faut pas oublier que l'humain peut s'améliorer. Si la personne, on voit des choses, mais on dit « Écoute, en entrevue, on a ciblé telle chose. On veut juste que tu saches chez nous, voici ce qu'on va entendre de toi. » On clarifie nos attentes et on les suit. Mais ça se peut que la personne n'ait pas de problème chez nous aussi en entreprise. Le problème, c'est qu'on n'ose pas nommer dès le départ. On attend 3 mois, 6 mois. On va lui dire à sa rencontre de fin de probation. Mais non, jour 1. C'est un comportement qui ne marche pas. Jour 1, tu t'assois avec la personne pour dire « Écoute, on est vraiment content que tu sois chez nous. » que tu nous aies choisi, on a très hâte de commencer. On veut juste être clair, par contre. Tu sais, ce matin, ton heure de début était à 8h. On a vu que tu étais arrivé à 8h05. on veut juste être clair que pour nous, ça ne sera pas acceptable pour les prochaines journées. On s'attend à ce que tu arrives à 8 heures, pas à 8h05. La personne, si elle a quitté, de toute façon, elle va le faire. Mais je dirais plus souvent qu'autrement, la personne va corriger son comportement parce qu'elle veut. Elle veut plaire. Je reviens au besoin fondamental. L'humain, il veut plaire. Fait qu'il va s'ajuster. Par contre, après 3 mois, l'habitude a pris la place. Donc là, ça va être beaucoup plus long à faire changer un comportement. Mais jour 1, jour 2, on peut à peu près clarifier les attentes sur à peu près tout. Puis majoritairement, les employés vont s'ajuster puis ils ne quitteront pas parce que c'est la première fois que quelqu'un va avoir été honnête et authentique avec eux. Et l'humain recherche cette authenticité-là. On a besoin de se faire dire les vraies choses, évidemment avec respect, avec douceur, mais on apprécie les gens qui sont transparents, honnêtes, parce qu'après, quand ils nous disent « je suis vraiment content, je vois là, que cette semaine, tu as fait des gros efforts, c'est une belle première semaine », ben, je ne me poserai pas la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que jour 1, ils me rencontraient pour des choses qui ne marchaient pas. Je vais le prendre, je vais être heureux, je vais me sentir reconnu.
Marie-Ève, j'apprends plein de choses ce soir, puis je me dis qu'un propriétaire d'entreprise ou une propriétaire d'entreprise qui se pose la question « j'ai-tu besoin d'une stratège en ressources humaines? » Je pense qu'ils vont, ils vont répondre à leurs questions assez rapidement. Tu m'apprends plein de choses de mon côté, malgré le fait que j'ai été gestionnaire. J'adore ça. Écoute, j'ai 1001 questions. J'essaie de les classer par ordre de priorité parce qu'on n'a pas tant de temps ce soir. Mais... je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai 40 ans d'expérience dans cette entreprise-là, fait que j'ai 60 ans. Et moi, j'ai repris l'entreprise de mon père travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, j'ai eu comme exemple que dans la vie, il faut que je travaille. Puis là, je me ramasse avec la nouvelle génération, une jeune femme ou un jeune homme de 20 ans qui dit « Hey! » Vendredi, boss, je veux pas rentrer, c'est la fête de mon ami, puis on avait prévu passer un peu de temps. C'est-tu difficile, quand on est stratège en ressources humaines, d'essayer de négocier entre la vision du patron versus la vision de l'employé qui, pour lui, ben, la fête de son ami ou sa propre fête, c'est une journée super importante dans la vie, là, ça devrait être congé férié à la grandeur du Québec, là.
En fait, moi, je reviens beaucoup avec les stratégies de médiation. À la base, c'est des besoins. Donc, si l'ami, lui, c'est son besoin, c'est de passer du temps avec ses amis, c'est important pour lui, la fête de son ami, ça nécessite un congé. Propriétaire, lui, c'est quoi son besoin? C'est de faire rouler sa boîte.
Ouais.
C'est que la business continue. Mais je m'assois puis je regarde qu'est-ce qui est possible de faire. Des fois, il n'y a rien qui est possible de faire. Pour dire, ben, celui-là, je ne peux pas te l'accorder. Malheureusement, je voudrais bien te l'accorder. Voici les solutions que j'ai regardées. Mais c'est un moment, le vendredi, c'est là qu'on a le plus d'appels. Je peux malheureusement pas te permettre de prendre ton congé, mais ça se dit. Encore là, quand c'est honnête, c'est authentique, c'est rare que la personne va démissionner à cause de ça parce qu'elle va avoir compris le besoin derrière. L'enjeu, c'est quand les gens restent sur leur position, que c'est leur position. Non, moi, c'est pas vrai que je vais accepter un congé pour une fête d'un ami. Ça fait pas de sens. Ça part de quel besoin? On le sait pas. Ça a besoin de dire, chez nous, ça a pas été fait comme ça. Mais au-delà de ça, le propriétaire d'entreprise, souvent, quand on lui parle, c'est quoi son objectif? C'est de faire de l'argent, c'est de faire rouler sa business, c'est qu'elle continue à être pérenne. Bien, parfait. Si je suis capable de combler ce besoin-là, en comblant le besoin de ton employé, est-ce que tu me donnes le champ libre? C'est bien rare qu'ils m'ont dit non. Puis quand je ne suis pas capable, je reviens avec l'employé en disant, voici les alternatives que j'ai regardées, mais je suis obligée de te dire que le vendredi, tu es tout seul au bureau. C'est là qu'on a le plus d'appels. Je ne peux pas faire ça. Par contre, le lundi, il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce que tu dirais de sortir ton chum le dimanche soir? Parce qu'on pourrait déplacer, parce que le but, ce n'est pas de t'empêcher, mais de répondre aux besoins de l'entreprise. Et la plupart vont dire, hey, il ne pourra pas dimanche soir, mais c'est correct, je vais être là vendredi. Et on vient d'éviter une crise. On a refusé le congé, on a dit non sans faire de crise. L'idée, c'est de revenir encore là sur les besoins de chacun, puis d'arrêter de penser que notre perception, c'est la bonne. Il n'y en a pas de vérité. Si lui, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Si l'autre, c'est pas important, c'est vraiment pas important. Ça ne donne à rien de se confronter pour savoir ça l'est-tu ou ça ne l'est pas. Ça l'est. Il y en a qui vont prendre congé parce que leur chat est malade. Mais peut-être que moi, avec 3 enfants, je fais comme, ouais, ton chat, il est malade. Peut-être que je n'aurais pas la même perception. En même temps, je suis qui pour juger? C'est qui son chat dans sa vie. Ce que je veux, c'est répondre à mon besoin et ça devrait être la priorité. Donc, le focus, moi, je l'enlève de c'est quoi la vérité ou pas, je le mets sur qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. C'est quoi l'objectif final?
Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans ton métier de stratège en ressources humaines, les conflits générationnels? Quand il y a 20 ans, quand il y a 30 ans qui séparent les employés, quand il y a 20 ans, 30 ans qui séparent les employés du patron?
Absolument. En fait, je donne beaucoup de formation là-dessus parce que l'enjeu, c'est plus qu'on ne se comprend pas, mais en même temps, c'est au-delà de l'intergénérationnel. L'humain est centré sur ses besoins, sa perception. Donc, on a de la difficulté. On le voit dans la vie de couple, là. C'est pas toujours évident de comprendre l'autre et de comprendre sa réaction, mais c'est vrai en milieu de travail, au-delà de les générations qui sont différentes. Donc, en fonction de comment on est, de comment on a été élevé, de c'est quoi notre parcours, bien, on va réagir différemment. À partir du moment où on est sensible à qu'est-ce que l'autre essaie de me dire avec le comportement qui me tape ses nerfs, bien, souvent, on va aller beaucoup plus loin et on va régler des problématiques. Fait que oui, l'intergénération, bien, moi, je dirais, dès qu'il y a de l'humain, qu'il y a deux personnes qui sont différentes, bien, il y aura toujours tendance à avoir des problèmes de perception et de communication. Fait que ça vaut toujours la peine de, un, apprendre à nommer ton malaise, qu'est-ce que je trouve difficile, quel est l'impact que ça a sur moi. Puis à partir du moment où on a fait ça, la personne en face, elle veut plaire. Elle revient à son premier besoin. Elle va tenter de voir. Des fois, c'est juste pas comment. C'est juste l'aide que je vais aller apporter. C'est OK, je comprends ton besoin. Je comprends l'impact que j'ai. Je sais pas quoi faire pour changer la situation. Fait que des fois, de juste aller avoir une tierce personne, que ce soit le gestionnaire, le propriétaire ou un stratège en RH, va être capable d'aller dire, mais peut-être as-tu pensé à faire telle chose? Peut-être que ça pourrait répondre aux besoins de tout le monde. Donc, c'est vraiment le rôle, c'est d'aller chercher cette espèce de petit coup de pouce supplémentaire, là.
Ils désirent quoi, les jeunes, quand ils rentrent dans le marché du travail, dans leur âge adulte? Mettons 22, 23, 24 ans, sortent du cégep, sortent de l'université. Ils désirent quoi, cette génération-là? Est-ce qu'ils désirent une liberté? Est-ce qu'ils désirent d'être passionnés de leur métier? Qu'est-ce qu'ils veulent, en général?
En fait, le plus gros besoin que j'ai vu, c'est un sens à leur travail. Pour que leur travail fasse du sens. Ils ne viendront pas travailler si leur travail ne fait pas de sens. Ils n'ont pas l'impression que ce qu'ils font a une utilité, une pertinence ou un sens. Ils vont complètement se démotiver. Par contre, si on réussit, peu importe c'est quoi, là, que ce soit d'empiler des cannes de conserve ou de gérer dans les hôpitaux, peu importe, si on réussit à trouver pourquoi ils le font, si ça fait du sens pour eux, honnêtement, les jeunes sont les plus dévoués que j'ai vus dans le milieu de travail. Parce qu'ils vont s'impliquer avec, ils mettent leurs émotions. Ils ne sont pas que là pour le chèque de paye à la fin de la semaine. Ils sont là parce qu'ils croient à l'impact que ça a, parce qu'ils croient au milieu de travail, à l'équipe. Donc, souvent, ils vont aller chercher une équipe, un milieu de travail, de la reconnaissance. Ils vont aller chercher l'équivalent. On dit souvent là, qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire on est comme une famille. Ils vont aller chercher un environnement. À l'époque, les générations plus âgées, on était dans des grandes familles, l'humain était très proche en dehors du travail. Donc, on arrivait au travail, on n'était pas là pour tisser des liens, on était là pour travailler fort.
Ouais.
Parce qu'on était à l'inverse, on cherche tous la même chose, peu importe notre génération, on cherche un équilibre. Donc, les jeunes n'ont pas nécessairement connu cette proximité-là, vont le chercher au travail. Alors que les personnes d'une autre génération l'ont connu à la maison, ils vont moins le chercher au travail. Ceci étant, un humain, peu importe son âge, cherche toujours à être reconnu, à être apprécié, à être pertinent et à avoir du sens. C'est des besoins, peu importe notre âge, qui sont fondamentaux. On les exprime juste différemment en fonction de qui on est.
Comment on gère en entreprise des gens qui sont capables de prendre énormément de pression versus ceux qui sont incapables d'avoir de la pression? C'est le même métier, c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Il y en a un qui peut être un peu moins performant parce que quand il y a trop de pression, cette personne-là craque. On fait comment quand on est une stratège en ressources humaines pour justement essayer d'aider cette personne-là qui est incapable d'en prendre la pression? Est-ce qu'elle doit changer automatiquement de métier?
Bien, en fait, la réponse est malheureusement pas blanc ou noir. Ça dépend toujours des contextes. Mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher comment je vais faire briller la personne davantage. Dans toutes les entreprises, même si on a le même poste, ouais, il y en a qui gèrent la pression. Je donne un exemple. Je suis dans une clinique dentaire où j'ai deux secrétaires, une qui goal, là. Elle prend la pression, les appels l'un en arrière de l'autre. Et j'en ai une qui est un peu moins capable de faire ça. Elle vient vite stressée. Par contre, elle est extraordinaire en relation avec la clientèle. Donc, dès qu'il y a un patient qui est mécontent, « Ah là, on m'a redéplacé, on m'a annulé, ah là, là, ça coûte donc bien cher ou il y a quelque chose », elle est incroyable pour calmer ce patient-là. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, mais on a tous des forces et des faiblesses. La personne qui est super efficace, qui prend de la pression, bien, ça se peut qu'elle prenne moins de temps avec le patient, puis ça se peut qu'elle l'enveloppe un peu moins, puis qu'elle soit moins dans un contexte chaleureux parce qu'on a les défauts de nos qualités puis les qualités de nos défauts. La personne qui veut s'assurer d'envelopper le patient, bien, assurément, va être moins rapide. Donc, l'idée, c'est de voir comment je peux organiser le travail pour que l'entreprise, ça soit la personne la plus gagnante, puis dire, bien, je vais aller faire briller chacune des personnes dans leur partie à eux. Et naturellement, quand on est sur notre zone, notre X, puis qu'on brille, on en donne plus. Donc, l'entreprise va être gagnante.
Les différentes cultures aussi, j'imagine que tu as observé ça. J'ai un de mes amis qui est arrivé... Voilà, ça, 7 ans ou 8 ans d'Haïti, puis il a immigré au Québec, un super de bon gars, puis il m'avait dit qu'il comprenait pas qu'on avait des heures d'entrée puis des heures de sortie chez nous. Et ça a pris un certain temps. Lui, ses premiers emplois, c'était dans la tonte de gazon. Puis la tonte de gazon, ben il y a une heure pour commencer le gazon, puis le soir, ben, l'employeur disait « Vous terminez à cette heure-là ». Puis il arrivait tout le temps comme une heure, deux heures en retard, parce que lui, c'était ça, tu sais. Quand il allait travailler, c'est parce qu'il était disponible pour aller travailler, donc il arrivait à 10 heures. Je te donne un exemple comme ça, il était supposé d'arriver à 8 heures. Ouais. Le boss, il a dit 8 heures, mais lui... Sa culture fait en sorte que, regarde, il peut rentrer à 10 heures sans aucun problème. Puis il n'y avait pas tant de stress que ça. Puis ça a pris un certain temps avant qu'ils prennent le beat nord-américain de « on est stressé, puis quand on te demande de rentrer à 8 heures, il faut que tu sois là à 7h59. » Puis ça doit être compliqué, ça aussi, en entreprise, gérer tout ce beau monde-là, tu sais.
En fait, la première étape, c'est de clarifier ce qu'on s'attend à une personne. C'est l'erreur que les gens font. Ils prennent pour acquis, mais je m'attends à Marie qui fasse sa job. OK, mais moi, quand je dis à mes enfants, je m'attends à ce que vous soyez poli. Ça veut dire quoi être poli?
Ouais.
Donc, de clarifier qu'est-ce qu'on s'attend. Je m'attends à ce qu'il soit ponctuel, qu'il soit à l'heure. J'ai demandé 8 heures qu'il soit là. Est-ce que pour toi, c'est un enjeu d'arriver à 8 heures? Si on lui avait posé la question au départ, il aurait dit, ben là, je sais pas, moi, je suis pas habituée d'avoir une heure de...
Exact.
Dès la deuxième journée, écoute, t'es arrivé à 10 heures, est-ce qu'il y a eu un enjeu? Non, mais j'étais pas prêt avant. Bon, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, de voir, ben, moi, j'ai besoin que mes clients, parce qu'ils vont m'appeler 8 fois pour dire, ton gars, il est pas arrivé. Fait que ça fait travailler ma réceptionniste. Moi, ça fait perdre ma notoriété. J'ai besoin que tu sois là à 8 heures. Donc, est-ce que tu penses que tu vas être capable d'arriver à 8 heures? Parce que j'ai vraiment besoin de ça. Personne n'aurait pas quelqu'un qui aurait trouvé ça dur, écoute, je ne sais pas, mais il aurait fini par rentrer dans le moule où il serait parti. L'idée, c'est d'être clair dès le départ, de dire voici l'impact que ça a. Après ça, c'est un choix, que ce soit culturel ou pas. Je connais bien des Québécois qui sont prêts d'arriver à l'heure.
Oui, exact.
Donc, que ce soit culturel ou pas, l'important, c'est que l'entreprise soit capable de clarifier les attentes dès le départ, de les faire appliquer. Pas avec des doubles standards. Ah, ben lui, c'est mon chum. Lui, je le permets d'arriver plus tard. L'autre, je le permets pas. Donc, qu'il soit capable de le faire appliquer de façon cohérente et constante. Après ça, ben les employés, ils ont deux choix. J'embarque ou je débarque.
Dans le fond, ce que tu me racontes, c'est qu'il y a énormément de problèmes de communication là, entre les employés ou encore entre les patrons et les employés.
Absolument, parce que les gens, on prenne pour acquis. Voyons, c'est évident. Voyons, c'est évident, ils devraient le savoir. Mais c'est un peu comme dans une relation de couple, là. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de lire dans les pensées de ta blonde, mais c'est rarement un succès fulgurant là, de dire « Ah, bien, il me semble qu'elle aurait dû le voir, elle aurait dû le penser. » On suppose beaucoup que les gens vont le penser d'eux-mêmes. La réalité, c'est que les gens ne sont pas mal intentionnés, ils ne le voient pas tant qu'on ne leur dit pas. Donc, d'apprendre à nommer nos attentes, à nommer ce qui nous dérange, à clarifier l'impact que ça a, ça fait vraiment un game changer dans une entreprise. Là.
Ce soir, on passe la soirée avec Marie-Ève Drouin, elle est stratège en ressources humaines et médiatrice. Elle était aussi auteure. Elle nous présente son livre ce soir qui s'appelle « Apprivoiser les vampires au travail » et qui met en lumière 15 profils exigeants ainsi que des stratégies bienveillantes pour composer avec leur comportement. On va faire une très courte pause. Marie-Ève, ton livre est disponible dans toutes les bonnes librairies?
Dans toutes les librairies du Québec, que chez mon éditeur également, le Septembre Éditeur.
On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Elle est maintenant députée indépendante de Saint-Laurent. Son nom, c'est Marois Risky. Est-ce que vous avez été témoin de ça à l'Assemblée nationale, des gens qui sont là pour se servir en politique?
Tantôt, vous m'avez dit des affaires peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre. Ben, vous comprenez, je réponds de la France que j'adore. J'ai confiance en nos institutions. Et je suis convaincue que les gens qui ont des pouvoirs d'enquête sont capables de relever des manquements le cas échéant.
Ça, c'est la cassette.
Oui! Et je suis convaincue que si mon avocate écoute en ce moment, elle va dire bravo.
Elle est contente, là.
Oui.
Quel sentiment vous habite par rapport aux gens du caucus libéral? Avez-vous, à un moment donné, été fâché après ces gens-là qui défendaient bec et ongle Pablo Rodriguez?
Non, parce que ils n'ont pas le niveau d'information que moi, j'ai.
Pourquoi ne pas leur avoir donné?
Je ne peux pas. T'sais, j'aime pas dire à mon mari.
Peut-être le prendre moins personnel. Elle ne l'a pas dit à son mari.
Ben, c'est sûr.
Marceau, le matin. En semaine, 6 heures.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com. Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent leur promo Castopol Poulet. Une cuisse ou une poitrine au choix du rôtisseur avec les accompagnements à 10,95 $ au comptoir et au service à l'auto.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En avril, obtenez le Maverick 2026 XLT hybride en location 60 mois à 99 $ par semaine et le F-150 STX 2026 à 119 $ par semaine en location 36 mois. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Le 28 avril, c'est le jour de deuil. Une journée internationale consacrée à la mémoire des personnes blessées ou décédées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au Québec, on compte chaque année plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles et plus de 200 décès. C'est beaucoup trop. En collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur, nous contribuons à rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires. Le 28 avril et toute l'année, priorisons la prévention. Un message de la CNESST.
J'ai vu ton historique sur Internet.
Ah, je peux expliquer.
T'es accro?
Ben, c'est ce que...
Yeah, fais-toi-en pas. Moi aussi. Check les offres cette semaine sur Mercado.fm.
Obtenez une demande de pardon d'une valeur de 1 000 $ pour 500 $ chez Identité Québec et un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Attitude Hélicoptère.
Oh oui, c'est ça que je disais. Mercado.
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Parfait, parce que votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1% de rabais sur tous nos modèles en location. Oui, 1% de moins sur votre prochain Volkswagen. Offrez-vous un nouveau look, plus de technologie et encore plus de plaisir à conduire tout en payant moins chaque mois. C'est le moment idéal pour changer. Passez nous voir dès aujourd'hui et découvrez à quel point être fidèle, ça paye. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invitée de ce soir, c'est Marie-Ève Drouin. Elle est stratège en ressources humaines et médiatrice. Elle nous présente son livre qui s'intitule « Apprivoiser les vampires au travail » et elle lève le voile sur les comportements problématiques qui plombent notre productivité au travail et propose des solutions pour gérer les vampires qui grugent notre énergie. À qui s'adresse ce livre-là, Marie-Ève?
Il s'adresse à tout le monde, en fait. Il y a une section dans le livre qui est pour les gestionnaires, donc pour voir comment on peut s'outiller quand on a ces vampires-là dans notre équipe. Mais il y a une grosse section aussi qui est pour tous. Donc, quand on est un collègue, on n'a pas d'autorité sur cette personne-là. C'est notre client, par exemple, c'est notre collègue de travail. Donc, des petites phrases simples sur comment je peux réagir à cette personne-là sans me transformer en vampire, en protégeant ma relation avec cette personne-là, mais en pouvant mettre mes propres limites.
C'est dans toutes les bonnes librairies. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Il reste quelques secondes. J'aimerais savoir ton opinion en tant que stratège en ressources humaines. L'intelligence artificielle, ça commence-tu à stresser les patrons puis ça commence-tu à stresser les employés aussi?
Oui, ça stresse beaucoup de gens, en fait. Principalement les employés parce que, évidemment, il n'y a pas de gestion qui est faite autour pour s'assurer de dire, bien, qu'est-ce que je vais enlever pour améliorer la productivité? Tous les employés comprennent qu'il faut que leur job soit plus productif pour rester concurrentiel. Mais comment ça va être fait? Qu'est-ce qui va me rester? Est-ce que je vais finir par trier des trombones et ça ne m'intéresse pas, même si tu continues à me payer? Donc, comment tout ça va être fait? Il manque un petit peu d'accompagnement pour s'assurer de maximiser. Puis là, les entreprises commencent à stresser en disant, mais ça fait 200 000, 300 000 que j'ai investi, puis mes employés ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils veulent garder leur job comme elle est. Donc, eux commencent à stresser parce qu'ils ont investi des sous et les employés commencent à stresser en disant, mais où on s'en va? La clé demeure, comme avec la médiation, d'aller chercher les besoins de chacun puis de trouver comment on peut arrimer tout ça. Et une vraie bonne gestion de changement, ça va vraiment s'assurer de la réussite d'un projet. Les employés vont être contents, ils vont aimer leur job. L'entreprise, elle, va pouvoir aller chercher son gain qu'elle souhaitait.
Puis, est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, il y a des entreprises qui vont fonctionner uniquement avec l'intelligence artificielle sans nécessairement passer par des employés humains?
Je pense qu'il va toujours avoir besoin d'humains. Je pense que c'est nécessaire, en fait, que ça va être bon même d'avoir l'humain. L'intelligence artificielle, elle ne challenge pas. Puis, on a beau dire qu'on trouve ça difficile, des fois, comme gestionnaire, des employés qui nous challenge, c'est bon pour une entreprise. Hein, ça fait rebrasser les idées, la vision. Si on va sur n'importe quelle plateforme, là, que ce soit ChatGPT ou Claude, on lui pose une question, il est toujours oh, « très bonne question, oui, effectivement, il est toujours dans notre bord. » Alors que ce qui fait avancer les entreprises, c'est les chocs d'idées. Ça va continuer à prendre des humains. Évidemment, le nombre va diminuer, mais je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher une entreprise à son plein potentiel s'il n'y en a plus d'humains, parce que ce qui fait notre unicité en tant qu'humain,
ouais,
on ne pourra pas le mettre dans l'intelligence artificielle.
Intéressant. On aura peut-être l'occasion de se reparler de ce sujet-là. Ça m'intéresse grandement. Marie-Ève Drouin, tu es stratège en ressources humaines et médiatrice. Pour avoir accès à ton livre, c'est dans toutes les bonnes librairies?
Oui, absolument.
Ton nouveau livre, c'est « Apprivoiser les vampires au travail ». Puis pour les gens qui veulent en savoir plus sur ton métier, sur ton entreprise, on te rejoint comment?
Oui, sur mon site internet, drouinrh.com.
Drouinrh.com. Je te souhaite de passer une belle soirée puis au plaisir de se reparler.
Merci beaucoup.
Pour ce qui est des auditeurs, on se reparle demain. Salut tout le monde. Bon jeudi soir. Bye.
Marceau, le soir. Le printemps s'installe, les journées rallongent et les excuses pour une bonne bière se multiplient. Chaloux, Beauport-Saint-Émile et Sainte-Cat, votre arrêt pour profiter pleinement du printemps.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Parfait, parce que votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1% de rabais sur tous nos modèles en location. Oui, 1% de moins sur votre prochain Volkswagen. Offrez-vous un nouveau look, plus de technologie et encore plus de plaisir à conduire tout en payant moins chaque mois. C'est le moment idéal pour changer. Passez nous voir dès aujourd'hui et découvrez à quel point être fidèle, ça paye. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
Le vendredi, t'as deux options. Plutôt, t'as une seule adresse. Découvre nos nouvelles soirées vendredi split à l'atelier sur Grande Allée. Au rez-de-chaussée des hits des années 80, 90 et 2000. Un band live, une piste de danse et un menu cocktail nostalgie qui goûte tes meilleurs souvenirs. À l'étage, ambiance Boiler Room, DJ en feu, Butter Service. Une seule soirée, split, tous les vendredis dès 22h, bistroatelier.com.
Boulevard 102.1. Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. citoyen@blvd.fm. 102.1.
Pour un animal heureux, actif et en santé, passez chez Dino. Profitez présentement de rabais sur des traitements contre les puces et sur des produits de toilettage et d'entretien pour chiens et chats. Visitez dino.ca pour voir tous nos autres spéciaux du mois.
Bonjour. J'ai su que vous cherchiez des nouveaux mics.
Oui, parlez-moi de vous.
Ben déjà, je suis Manuel.
Ah, parfait, on cherche du monde manuel.
Non, mon nom, c'est Manuel.
OK, mais êtes-vous Manuel?
Mais hein, que je suis Manuel.
Embauché!
Ma Manuel chez Rona!
Mike ou pas, postulez chez Rona.
Des bons VUS, il y en a plein. Mais il y en a un qui est juste mieux. La nouvelle Uncharted 2026 100% électrique à partir de $106 par semaine. Des bons concessionnaires dans le marché, ben, il y en a plein. Mais tant qu'à payer le même prix, pourquoi pas le prendre chez le concessionnaire qui est juste mieux? Ben ça, c'est Option Subaru. Option Subaru, c'est pareil comme ailleurs, mais mieux.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Boulevard 102.1. Se bat à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traiter l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble.
Come together.
Boulevard 102.1. La radio de l'extrême centre au Québec.
Maintenant, 100% talk.
Une propriété, Leclerc Communication.
I'm on the road again. Half drunk with a lit cigarette. I don't know when I'll be back in this town. At least that's what I tell her. Baby, I'm just saying. Maybe I just think too much. I'm leaving in the AM. Baby, are you staying? I know that you drank too much. And this is what she said to me. I'm at the same damn place. She's staring in my eyes, she's no outgiving. I'm wondering if I should walk on over. I said, girl, I saw you winking. Tell me what you're thinking. Can I get your name? I'm not leaving till the AM. Girl, what are you saying? Would you wanna stay with me? And this is what I said to her. I'm just.
Toxic ambition is so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning. I'm better off all by myself. Though I'm feeling kind of empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know.
Backing it up a bit, counting my hours and knocking on wood. Avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds. I'm rigid, I'm screwed, don't know what to do. I'm thinking of you, I'm drinking up bottles and bottles of booze.
I'm better off all by myself.